Jean-Louis Onjimfid, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi on ne parvient pas à éradiquer la corruption à Madagascar?
On a pu constater effectivement que après une dizaine d'années, on n'a pas beaucoup progressé. En fait, on a vraiment régressé sur les efforts qu'on a mis donc pour combattre la corruption à Madagascar. Aujourd'hui, personne n'a peur de faire des actes de corruption. En fait, c'est la crise politique qui s'est passée dans le pays en 2009 qui a donc favorisé vraiment ce recul de Madagascar par rapport à l'indice de perception défini par le Transparency International.
C'est juste la crise qui a fait que Madagascar a reculé ou il y a d'autres facteurs?
En fait, par rapport à cette crise, c'est la puissance publique qui a vraiment disparu à Madagascar. Et par rapport à ça, donc, il y a un relâchement, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique et financier. Et la pauvreté, vous savez bien que ça favorise aussi la corruption. Et ce sont tous ces facteurs qui ont contribué à ce constat.
Est-ce que c'est difficile aussi de lutter contre cette corruption parce que elle est présente, on va dire, à tous les niveaux, dans tous les secteurs à Madagascar, elle fait pratiquement partie du quotidien des Malgaches?
C'est justement par rapport à ce constat assez sombre que la nouvelle stratégie a été conçue et adoptée en septembre 2015. Et par rapport à cette stratégie, on avait donc mis en place une politique qui consistait à lutter contre la corruption dans tous les secteurs des services publics, en responsabilisant donc tous les responsables dans les administrations publiques à lutter contre la corruption au sein de chaque administration. Le pôle anticorruption qu'on va mettre en place et qui sera opérationnel d'ici peu, va donc faire une application stricte de la loi. Par rapport à ces deux actions, moi j'estime qu'on va pouvoir avoir un résultat quand même assez positif d'ici peu.
Le bureau indépendant anticorruption, est-ce qu'il a les moyens humains et financiers pour mener à terme les enquêtes dont il est saisi, donc des cas de corruption?
Le problème de moyens se pose toujours, surtout dans un pays en voie de développement comme Madagascar. Vous savez bien que nous faisons partie des pays les plus pauvres dans le monde. On devrait donc essayer de décharger un peu le bureau indépendant anticorruption pour les grandes affaires et de faire en sorte à ce que les petites corruptions soient traitées par les autres services de police comme la gendarmerie et la police nationale. Le Bianco n'est pas en mesure de traiter tous les faits de corruption qui se passent à Madagascar. Rien que en ce qui concerne la corruption sur les axes routiers, qui sont faites par des éléments de la police nationale ou de la gendarmerie, le Bianco n'arrive pas à réprimer ou même à faire un suivi par rapport à ces faits de corruption. Notre souci, c'est qu'on a peu de personnel pour pouvoir assumer toutes les enquêtes dans tous les services publics.
Il y a combien d'enquêteurs au Bianco?
Si on fait la moyenne, ça ne fait que 15 enquêteurs par branche territoriale. Il y a donc 6 branches territoriales.
C'est peu.
Effectivement, c'est très très peu.
Qu'est-ce que c'est les grosses affaires de corruption?
En fait, les plus fréquentes sur les grosses affaires de corruption concernent les marchés publics, les détournements de deniers publics, que ce soit au niveau des administrations ou au niveau des collectivités territoriales. Et aussi, ça concerne aussi les petites corruptions dans les services publics, comme les hôpitaux, les services de délivrance de permis de conduire ou de cartes grises.
Le Bianco, il est financé par des partenaires techniques et financiers, mais aussi par l'État. Comment être sûr que le Bianco est vraiment indépendant?
En fait, ça a été toujours le souci de tous, mais moi j'estime que le texte sur la lutte contre la corruption à Madagascar a mis en place des mécanismes et des systèmes qui font en sorte à ce que le Bianco soit indépendant, surtout à ce que son directeur général soit indépendant. Vous savez que là, maintenant, on est en mesure de faire l'audition des ministres en exercice, des sénateurs et des députés. C'est déjà un indicateur sur l'indépendance de l'institution.
Le bureau anticorruption était mis un peu sur le devant de la scène il y a quelques mois lorsque vous avez arrêté et mis en garde à vue la conseillère spéciale du président de la République, Claudine Radaï-Mamouns. Est-ce que les enquêteurs du Bianco ou vous-même, vous avez subi des pressions dans cette affaire parce qu'on avait vu quand même une démonstration de force devant les bureaux du Bianco de proches de Madame Radaï-Mamouns?
Vous savez ce qui s'est passé par rapport à cette affaire. Tout le monde l'a connu. Donc je pense que ce sont aussi des indicateurs qu'il y avait eu des pressions dont on était soumis par rapport au traitement de ce dossier.
Les enquêtes concernant Claudine Radaï-Mamouns, elles sont terminées ou il y en a encore d'autres?
Oui, il y en a encore d'autres. Nous sommes encore en train de les traiter.
Jean-Louis Ndjimfid, merci.
Merci à vous.